Ça s'est passé d'une manière, on peut dire, progressive, si ce n'est insidieuse, et je voudrais essayer de comprendre les raisons qui ont poussé à avoir ce changement sémantique. Alors, la terre, dans d'autres langues, la tierra en espagnol, the earth, RD en allemand, en fait il s'agit toujours de la terre, c'est à la fois le globe terrestre dans lequel nous vivons, et sur lequel nous vivons, pardon, et en même temps, la terre en tant que sol, qui peut être cultivé. Et effectivement, ce changement sémantique n'est pas rien. Alors, d'une part, la planète, nous sommes une planète du système solaire, et nous ne sommes pas la seule planète. Donc, Mars est une planète, et Jupiter, etc. Bon, Mars, le fait de vouloir aller sur Mars, dans la planète Mars, justement, c'est le projet de Monsieur Elon Musk, on le sait, avec des péripéties et des possibilités d'avenir qui me paraissent totalement illusoires, mais enfin, ce n'est pas notre sujet. Donc, pour rester dans ce passage de la planète aujourd'hui qui remplace la Terre, il y a effectivement quelque chose qui s'est passé. Alors, rappelons que justement le fait que la Terre soit en même temps la Terre sur laquelle nous sommes, c'est-à-dire qu'il y a la terre et la mer, il y a les terres cultivables, il y a les terres sur lesquelles nous sommes, et il y a tout ce rapport à la modification du sol qui est inclus dans ce concept, et ce n'est pas rien. Donc on rejoint notre sujet, qui est l'urbanisme, qui est l'architecture, qui est la transformation justement de la surface du terrain, avec les différentes conséquences que cela peut avoir, effectivement. Alors, c'est selon la vie que l'on peut avoir et selon le regard sur l'histoire, on peut considérer qu'il y a des changements qui sont positifs, et aussi on peut penser qu'il y a des changements qui sont négatifs dans ces transformations. Et c'est le but de notre chronique, justement, de poser ces problèmes à la fois sur le présent, à la fois sur le regard historique et aussi une projection possible, même si je vous ai dit les réticences que j'avais sur une prédiction sur l'avenir, et sachant que l'intitulé de cette émission « Où vivrons-nous demain ?» et que, je le répète encore une fois, est un titre ironique, parce que effectivement le futur ne nous appartient pas et il est difficile de savoir quel sera le futur. Donc nous basons beaucoup plus sur ce qui se passe aujourd'hui et en essayant de l'éclairer par le passé. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement ce changement de vocabulaire qui me paraît important et qui me paraît être un changement de paradigme, un changement important, puisque en fait nous enlevons ce mot essentiel qui est le sol, la terre, le territoire, pour être sur quelque chose, on peut dire, d'astronomique, qui est totalement qui nous échappe, puisqu'en fait, nous ne voyons pas, à part nous ne voyons pas les autres planètes du système solaire, et elles sont, on peut dire, elles sont virtuelles. Par exemple, dans un ciel étoilé, on a du mal à savoir. À part Vénus qui brille un peu plus, mais vraiment c'est quelque chose qui est complètement mental et que l'on ne peut pas voir puisque les planètes ne se distinguent pas les étoiles. Donc, je vais proposer une explication, bon, une explication qui en vaut d'autres, mais qui me paraît être un changement. Probablement un changement de civilisation et qui, comme je l'ai déjà dit, n'est pas récent, c'est-à-dire que même si ce changement de mots date de, on peut dire, de 10 ans, 15 ans, le changement de civilisation est, me semble-t-il, plus ancien et daterait pour moi d'un basculement à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Changement qui se traduit par le changement au niveau des arts essentiellement, en tout cas visible essentiellement. Les changements sociaux sont évidemment de structure sociale, sont beaucoup plus complexes et variés et difficiles à lire. Là, par contre, nous avons des choses qui sont objectives, c'est notamment l'art moderne, à la fois dans la peinture, la sculpture, l'architecture, la musique, où on a vraiment un changement d'esthétique qui est la conséquence de ce basculement. Alors, je me répète, mais ce basculement, il est essentiellement un basculement de civilisation, des civilisations liées à la civilisation urbaine, puisqu'en fait, je crois que la construction des villes telle qu'elle consistait à un bâti, on peut dire, continu, un bâti organisé, cette planification des villes qui se termine au 19e siècle, à mon sens, par un chant du cygne qui va être le réaménagement de Paris par Haussmann et qui va d'ailleurs être diffusé, on peut dire, dans le monde. Alors, je ne sais pas si c'est Haussmann qui donne l'impulsion, mais en tout cas, c'est un phénomène qui se passe dans la plupart des villes de l'Occident, et puis d'ailleurs, au-delà de l'Occident, c'est les implications dans la colonisation d'Afrique, de l'Asie, par l'Occident, et essentiellement se traduit par une forme de colonisation urbaine. Et en cela, ce n'est pas très original parce que on a par exemple l'expérience des colonisations précédentes, notamment celle de Rome sur une grande partie de l'Occident, en tout cas tout autour du bassin méditerranéen, et qui a été une colonisation qui a été faite par une continuité de villes assez semblables qui vont se succéder dans l'Empire romain. Donc, je reviens à cette rupture entre le 19e et le 20e siècle, et pour marquer justement un rapport différent avec le territoire. Donc on en revient toujours à la terre et le territoire, et ce que je voudrais dire, c'est que il y a un changement qui se produit dans notre pays, et que ce changement qui se produit dans notre pays, il est très certainement dû à des influences étrangères, notamment celles des États-Unis. Et c'est ce que je vais essayer de développer dans la deuxième partie de l'émission, après la pause musicale, c'est justement l'influence sur les États-Unis et le rôle des États-Unis dans l'Occident et la manière dont on a un changement de vision de notre territoire.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des y'a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien. Mais allonge-toi maintenant. Raconte, analyse tes histoires. Ça évite les pansements. Et je me dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance. Que tant qu'on a ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement.
Justement à ce rapport entre les Amériques et l'Europe. Alors, je ne vais pas évidemment vous raconter ce que vous savez déjà sur la découverte des Amériques, mais on peut dire qu'il y a cet immense continent nord-américain et sud-américain. Les nouveaux arrivants européens de la Renaissance découvrent un immense pays qui est très peu peuplé et qui est totalement différent de l'Europe. L'Europe est un pays qui a subi des siècles et des siècles de modifications du territoire. Les forêts ont disparu en grande partie pour être des zones agricoles, les marais ont été asséchés, les cours d'eau ont été améliorés, détournés. En fait, il y a des franchissements. Tout cela est une grande modification du territoire qui s'est passée sur des millénaires et on se trouve devant on peut dire, une nature sauvage. Et c'est d'ailleurs au cours des siècles ensuite, et la colonisation notamment de l'Amérique du Nord, où les colons débarquant par exemple du Mayflower, ils découvrent un pays ensauvagé. Le mot wilderness qui veut dire cela, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré, parce que nos forêts sont des forêts qui ont été coupées, plantées, améliorées. On n'a pas du tout une nature sauvage et qui est totalement inhospitalière, dans lequel on a du mal à pénétrer. Donc c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Donc ce rapport à la nature, effectivement, il supprime aussi toute idée de séparation, d'appropriation, de frontières. On est sur un immense espace sans limite. Et c'est la caractéristique de cette Amérique, que ce soit du Canada, que ce soit l'actuel Canada, les actuels États-Unis, que l'Amérique du Sud, c'est ce qui est totalement fascinant, c'est ces espaces sans limite. Donc on a un rapport qui est un rapport totalement différent. Et de ce rapport totalement différent, on va avoir des modifications du territoire, mais qui vont pas être du tout les mêmes, puisqu'il n'y a plus cette superposition historique qui se perd dans la mémoire, puisqu'en flûte, en fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est qui est créé par l'homme, qu'est-ce que c'est qui était naturel dans notre espace dans lequel nous vivons. Je parle de l'espace européen, bien sûr. Alors, on peut dire que dans ce rapport de la nature, les Européens vont créer une philosophie, une pensée qui va être différente, puisque d'abord, on va découvrir des espèces végétales, des espèces animales inconnues des Européens, et dans un rapport totalement autre, totalement différent. Alors, on va avoir l'écologie qui va apparaître en tant que discipline, c'est-à-dire l'étude des milieux. Ça va apparaître à la fin du 19e siècle, et je pense que cette philosophie d'un rapport à la nature, où la nature est, on peut dire, non pas inhospitalière, mais en tout cas difficile à maîtriser, et en tout cas d'une nature qui est autonome. La dimension, par exemple, des forêts, la dimension des séquoias, les arbres, tout est totalement différent de l'Europe. Alors, au cours du XXe siècle, on a, je pense, une influence de l'Amérique pour différentes raisons, des raisons qui vont être objectives, comme les découvertes industrielles de l'Amérique, d'une puissance qui lui permet d'intervenir sur le sol européen pour régler les conflits internes, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et en même temps, effectivement, il y a non seulement l'American Way of Life, mais il y a non seulement les produits américains qui vont arriver avec les découvertes, par exemple l'électricité par Edison. Enfin, il y a, on peut dire, des échanges entre les deux pays, mais il y a en même temps que ces produits arrivent, il y a aussi, et on le sait, il y a aussi une manière de voir le monde qui va influencer d'une manière très importante, et sans attendre Netflix ou Facebook, qui va influencer tout le XXe siècle. Alors évidemment, ça se passe d'une manière qui n'est pas je ne dirais pas insidieuse, mais sur une manière qui n'est pas très visible, puisque il s'agit tout de même de civilisations qui sont les mêmes, puisque les Américains sont des gens qui viennent de l'Occident. Simplement, Il y a un mode de vie qui va être différent, mais il y a un fond commun religieux, historique, qui crée des ambivalences, qui crée des ponts entre les deux continents. Et aujourd'hui, justement, pour revenir aux propos préliminaire du début entre territoire et terre, entre territoire, terre et ce mot de la planète, qui est une sorte de dépossession du sol et de ce rapport de modification, il y a, je pense, une vision qui est une vision qui nous vient d'Amérique du Nord et qui est traduite dans l'écologie et qui est une, on peut dire, une nature qui doit être non modifiée. On parle de respect de l'environnement aujourd'hui. Alors, ce mouvement, on ne va pas uniquement l'attribuer aux États-Unis, puisque on peut dire qu'il y a déjà dans notre civilisation les signes. Alors, est-ce que ces signes sont dans un échange entre les deux continents? On voit par exemple quand l'acte fondateur de Louis XIV, de mettre le pouvoir à Versailles. Alors, il y avait des châteaux, il y avait les châteaux de François Ier, on le sait, qui allait de château en château avec une sorte de cour mobile, mais tout de même, ça restait, le pouvoir restait dans la capitale, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois le pouvoir civique, le pouvoir religieux qui était dans les mêmes lieux, et le pouvoir économique, et les habitants, c'était la tradition européenne, et on va voir qu'aux États-Unis, on a un rapport qui va être autre, dans lequel notamment les pouvoirs politiques vont être dissociés des pouvoirs religieux, mais également, par exemple, pour les universités, la Sorbonne est à Paris, et les universités, que ce soit à Toulouse, à Montpellier, dans toutes les autres villes, il y a aussi cette concentration à la fois intellectuelle, à la fois du pouvoir politique, du pouvoir religieux, qui est à la même place et au même lieu. Alors, les États-Unis vont avoir une dissociation de ces pouvoirs. Les universités, par exemple, le mot campus dit bien de quoi il s'agit. On est dans les champs et on va faire d'une manière volontaire, notamment à travers les actions de Jefferson, le président des États-Unis. Il va créer un maillage universitaire de la même manière que les monastères du début du Moyen Âge et sur ce modèle-là. Et alors, le rapport de ce fait ne va plus être dans ces concentrations où les villes ont tout à la fois, mais va être une dispersion sur un territoire. Et le rapport au territoire est de ce fait différent, et ne serait-ce que par cette immense nature où le sol, par exemple, on n'a pas le découpage en champs, en villages de l'Europe. Et on a des immenses, des étendues à perte de vue, donc on n'a plus ce sens des dimensions, des frontières et des découpages. Donc, pour revenir au mot la terre, effectivement, la terre, elle est labourée, elle est modifiée, elle est plantée, elle est appropriée, elle est limité également, ne serait-ce que par la propriété, et on n'est pas sur des immenses propriétés à perte de vue en Europe. Donc on a un rapport qui est un rapport totalement différent. Alors là où je voulais en venir, c'était que, effectivement, cette écologie, alors, il ne s'agit pas de dire nous subissons une influence négative des États-Unis, puisque comme je vous disais, il y avait aussi en France le phénomène de Louis XIV avec les jardins de Versailles qui remettent la nature avec les palais et le pouvoir. Donc on est quelque part au champ et on a une opposition à la ville minérale qui était, on peut dire, la tradition, c'est-à-dire cette opposition entre les villes qui étaient minérales et la nature et les campagnes faites de villages et ces découpages de sol modifiés dont je vous parlais. Donc on a quelque chose qui est totalement différent et qui arrive aussi en Europe. Donc l'Europe, on peut dire, et s'ouvre. Alors est-ce que c'est une influence ou pas? Je ne voudrais pas le trancher, mais on peut dire que il y a ce basculement qui se, ou cette ouverture en tout cas, si c'est pas un basculement, qui se crée en même temps en Europe. Alors il y a aussi Rousseau, le philosophe qui remet la nature comme quelque chose qui s'oppose aussi à la culture. La culture, c'est d'abord la culture du sol, le cultivateur. Donc c'est cultiver votre jardin. Donc il y a l'injonction biblique également de des humains chassés du paradis terrestre vers la terre pour la modifier dans la pénibilité et la transformation. Donc on est dans un rapport qui est totalement autre. On peut aussi parler des communautés protestantes qui sont morcelés et qui n'ont pas les mêmes réseaux unitaires que la religion romaine catholique qui fonctionne en système hiérarchisé. Donc cet ensemble de choses, on peut aujourd'hui penser que nous avons un changement dans notre manière de voir le monde et très certainement cette écologie qui a pris son essor, on peut dire dans la fin du XXe siècle dans les 30 dernières années, et d'une manière assez singulière aussi, son appropriation par les déçus du marxisme, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin qui traduit d'une manière spectaculaire la fin du monde soviétique et du monde communiste en tant qu'idéologie. On a cette idéologie de remplacement qui va être l'écologie. Alors l'écologie va prendre effectivement un mélange politique et sociale et au-delà de ses fondements qui étaient en fait, on peut dire, sciences naturelles, biologie, qui était à l'origine de la création de l'écologie, et elle va prendre un tour écologique et un tour, en plus de cela, fortement politique. Donc je pense que aujourd'hui, pour revenir à mon introduction sur la planète, on a un changement complexe qui s'est passé, et effectivement la perte de ce rapport au sol, et nous sommes dans une vision beaucoup plus, on peut dire, de l'origine de la découverte des États-Unis, où on est sur une nature que l'on craint et que l'on admire à la fois, et qui est celle de l'écologie, et avec aussi ce paradoxe de vouloir créer ce en même temps macronien de la ville-nature, qui personnellement me paraît comme quelque chose assez contradictoire et surprenant, même si on peut trouver des accommodements et des côtés positifs, mais on peut aussi tomber dans un oxymore d'une chose totalement impossible et qui est peut-être, et je terminerai sur cela, la cause d'un certain désarroi actuellement, parce qu'on a du mal à nommer les choses, et quand on nomme la Terre, la planète, c'est qu'il y a certainement des inquiétudes à avoir. Bon, je finis sur cette note pessimiste et je vous dis à la semaine prochaine. cause d'un certain désarroi actuellement, parce qu'on a du mal à nommer les choses, et quand on nomme la Terre, la planète, c'est qu'il y a certainement des inquiétudes à avoir. Bon, je finis sur cette note pessimiste et je vous dis à la semaine prochaine.